c'est là que commence véritablement la période que j'appelle la grande régression. Parce que à partir de ce moment-là, ben, la ronde humaine que je décrivais tout à l'heure, qui avait commencé de tourner à l'endroit, là. Et en effet, moi j'ai vécu, j'ai grandi dans les années 60, je suis né en 1956, hein, donc j'ai pas tellement de souvenirs des années 50, mais oui, beaucoup des années 60, jusqu'au début des années 70. Et en effet, on pouvait dire qu'on commençait de grandir dans une société où, si on avait la chance d'avoir des parents qui donnaient une éducation justement démocratique, à la fois rigoureuse mais ouverte, où on pouvait voir s'articuler tous ces cercles, et où on ne voyait pas encore justement de repli communautariste. On avait l'impression que finalement tous les cercles pouvaient progresser ensemble, jusqu'à une échelle même planétaire. On vivait, c'est la perception qu'on avait, enfin moi comme adolescent en tout cas, dans un monde où non seulement il y avait de la solidarité au niveau régional, au niveau national, mais même entre les nations, pas entre toutes les nations, hein. Il y avait des guerres, il y avait de l'impérialisme, il y avait tout ça. Encore une fois, je ne fais pas de l'irénisme, hein, et j'idéalise pas cette période. Mais il y avait de la coopération internationale. Si on vivait dans un cas, par exemple, il y avait un système monétaire international, ce n'était pas la jungle, ce n'était pas la guerre des taux de change. On avait mis en place des institutions pour faire que les relations internationales ne soient pas guidées simplement par que le meilleur gagne, hein, et j'essaie de bouffer l'autre, non, mais par des règles, par des coopérations. Il y avait l'Europe, il y avait une construction européenne. Des pays qui s'étaient fait la guerre avaient décidé donc de mettre des moyens en commun et d'essayer de coopérer. Bref, c'est-à-dire qu'on pouvait se projeter dans un monde où on disait finalement à toutes les échelles, et y compris finalement l'échelle de la planète, peut-être un jour on va y arriver, eh bien, les peuples aussi vont coopérer entre eux. Or, ce qui se passe à la charnière des années 70-80, c'est que la ronde va se mettre à tourner à l'envers, et elle va se mettre à tourner à l'envers, justement, en partant du haut, parce que c'est un projet politique délibéré qui va organiser ce cercle infernal à l'envers, parce que les années 80 coïncident avec la victoire politique, c'est une victoire politique des néolibéraux. Et des néoconservateurs, avec l'arrivée de Thatcher en Grande-Bretagne, de Reagan aux États-Unis, Helmut Kohl en Allemagne, etc. Et qui peu à peu, donc qui vont lancer le retournement complet des politiques et des orientations, qui vont être suivis assez rapidement à partir du milieu des années 80 par les décisions de l'Union européenne, qui vont aller dans le même sens. Pour faire court, qu'ont-ils fait? Je ne vais pas faire toute l'histoire de ce qu'ils ont fait, d'autant que comme un public ici est cultivé et beaucoup militant, vous le savez déjà. Mais comment je l'analyse, en fait, plus exactement ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que arrive au pouvoir, à un moment, je ne sais pas, dans le livre, je passe un temps considérable à expliquer pourquoi ils ont pu arriver. Quel est le changement de contexte, des rapports de force, etc. Enfin, quelle est l'histoire qui a amené à ce basculement, qui a pu faire la victoire de cela. Mais les gens qui arrivent au pouvoir, ce sont des gens qui ont un projet politique, eux. Ce n'est pas du bricolage, contrairement à la social-démocratie qui a bricolé son truc pendant 30 ans. Eux, ils ne bricolent pas, ils ont une doctrine. C'est-à-dire que pendant que la social-démocratie est cette espèce de compromis qui cherchait à tâtons, hein, de progrès entre dix sociétés, hyper-sociétés, socialisme et capitalisme, était en train de se faire sans penser, avec des gens qui ne pensaient plus, il y avait des gens qui pensaient, hein, les Hayek, Friedman, la société du Mont-Pèlerin, etc. Il y avait des laboratoires de pensée qui étaient en train de structurer la nouvelle pensée libérale, la nouvelle idéologie, et qui allait, en effet, les libertariens américains aussi travaillaient beaucoup, hein, les Nozick et compagnie. Et donc, il y avait un vrai travail intellectuel qui était en train de se structurer et qui allait inspirer, justement, la génération des Reagan, des Thatcher, etc., qui, eux, arrivaient avec un projet politique. Et leur projet politique, c'était justement maintenant que le vent de l'histoire était en leur faveur, que le rapport de force était en faveur, c'était d'effacer et d'abolir tous les compromis qui avaient été passés dans l'après-guerre, cette abomination, abomination pour eux, qu'avait été le fait, par exemple, que des libéraux, des démocrates chrétiens aient pu passer des compromis avec des communistes, hein, c'est-à-dire avec des bouffeurs de curés, etc. Enfin, c'était une monstruosité. Donc il y avait un anticommunisme viscéral et qui faisait que ils étaient les enfants de pères indignes qui avaient commis ce crime d'aller se commettre dans des compromis avec des rouges, avec des socialistes, etc. On en était là, et moi j'ai croisé quelques-uns, y compris au Parti Socialiste, figurez-vous. J'en ai croisé quelques-uns chez qui on sentait véritablement ça, cette espèce de honte, cette espèce de haine, et qu'il fallait effacer. Bon. Donc il fallait effacer ces compromis et abolir tous ces compromis pour mettre en place vraiment la société de leur rêve. La société de leur rêve, c'est un mélange pour certains de 10 sociétés idéales, c'est-à-dire où chacun est l'entrepreneur de sa propre vie, vit dans son rente et son machin, n'a de lien véritablement intense que dans la famille, qui est le seul endroit où on peut avoir des relations humaines, en réalité, dans leur tête, et non de relations entre eux que par des échanges. Entre nous, nous faisons des échanges et des contrats, un point c'est tout. Ça c'est pour les plus libéraux. Pour les moins libéraux et beaucoup plus conservateurs dans la tête, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils sont d'accord pour l'ultralibéralisme économique, mais il faut des forts liens et regroupements communautaires pour que les gens quand même marchent droit, respectent la norme, la morale, etc. Bon. Mais finalement, ils s'entendent assez bien. C'est assez paradoxal, mais on le voit bien vu aux États-Unis, dans l'administration américaine. C'est une alliance parfaite entre des ultralibéraux et des ultraconservateurs. Parce qu'en réalité, il y a un projet commun. Et ils peuvent s'entendre. Et ils se sont entendus. Donc ils ont un projet. Mais comment mettre en œuvre un projet qui est celui de casser l'État social, de casser les services publics, de casser toutes ces réglementations sur les marchés, etc. De faire travailler les gens plus intensément, alors qu'on les a habitués à l'idée qu'ils devaient avoir toujours plus de congés, toujours plus de retraites, toujours plus de prestations sociales, enfin bref, qu'ils devaient vivre toujours mieux. Que le progrès, c'était vivre mieux, c'était pas de faire chier plus. Bon. Et donc vous avez des populations qui ont grandi dans cette culture. Le progrès, c'est ça. Ces gens arrivent au pouvoir. Et eux, ce qu'ils ont en tête, non, non, il faut les faire trimer comme des malins, c'est chacun pour soi, il va falloir qu'ils se battent pour la vie, pour survivre, et que le meilleur gagne. Comment vous allez faire passer ce modèle dans cette société, cette culture-là? C'est pas simple et c'est pas évident. Donc, comment vous faites? Eh bien, c'est pas compliqué, c'est une bonne vieille règle. Si vous voulez que les êtres humains se comportent en tueurs, alors qu'ils ne le sont pas, eh bien, il faut les jeter au milieu d'un champ de bataille. Voilà. Et c'est-à-dire les mettre dans un état, une situation de nécessité où de toute façon ils ne pourront pas faire autrement que de se comporter comme des bêtes qui sont en lutte pour la survie. Et donc c'est aussi simple que ça. Donc il s'agissait de répandre le virus de la guerre économique à tous les étages de la société. Alors comment faire? C'est très malin parce que non, ils n'allaient pas commencer au plan national en disant ben là on va mettre plus de concurrence chez nous. Les gens ont rigolé. Ils auraient dit non, pas du tout, on ne veut pas, ils auraient résisté, ça ne se serait pas fait. Et ils pouvaient résister, évidemment. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre les territoires du monde entier dans une compétition sauvage. Et c'est comme ça qu'ils s'y sont pris. C'est-à-dire par la déréglementation financière, la libéralisation financière, que attaque et critique depuis longtemps à si juste titre. Par la libéralisation de la finance et notamment de la libre circulation des capitaux, en fait, il donnait un pouvoir de chantage inédit qui n'avait jamais existé dans l'histoire de l'humanité à ceux qui détenaient de l'argent, de dire ici vous faites comme je veux, sinon vous n'aurez rien et je vais ailleurs. Ce qui, évidemment, dans un certain nombre d'endroits, était un pouvoir de chantage réel. Donc, mise en compétition des territoires qui, du coup, allaient se battre les uns contre les autres pour attirer les investisseurs, attirer les capitaux. Libre-échange des marchandises, étendu progressivement, là encore, pour créer ce climat de guerre économique. Et donc c'est comme ça qu'ils ont procédé. Alors en mettant l'ensemble des territoires dans un état de guerre, eh bien ils ont pu répandre le virus de la rivalité dans tous les étages de la société et dans tous les étages de la vie des êtres humains. Et donc la ronde dont je parlais tout à l'heure, qui part de la famille jusqu'à la planète et la solidarité internationale en tournant à l'endroit, s'est mise à tourner à l'envers. Quand vous mettez la planète en guerre économique, habituellement quand des pays sont en guerre, ça a plutôt pour effet de renforcer la solidarité nationale. C'est-à-dire que momentanément, face à l'adversité, à la menace extérieure, on oublie ces divisions, ces dissensions, et il y a un sursaut de solidarité nationale. Là, ce n'est pas du tout l'effet, parce que ce n'est pas une guerre militaire, ce n'est pas la guerre contre l'étranger, ce n'est pas une guerre entre des États et contre des États. Et c'est ça la subtilité de la guerre économique. Quand vous ouvrez totalement les marchés, que vous mettez votre propre marché en compétition avec tous les autres, ça ne renforce pas du tout la solidarité nationale intérieure parce que ça a pour effet un effet exactement inverse, qui est de polluer la totalité de votre société par la guerre économique. Car, bien évidemment, ce n'est pas un État qui vous fait la guerre. Vous n'êtes pas attaqué, hein, contrairement au cas où vous avez une vraie guerre militaire, dans la guerre économique, vous n'êtes pas attaqué par votre voisin ou par un État qui vous menace avec ses chars d'assaut, etc. Non. Vous êtes menacé par le monde entier. La menace ne vient pas de l'Est, de l'Ouest ou du Centre. Elle vient simplement du fait qu'il y a des gens que vous connaissez même pas, qui d'un coup de stylo peuvent dire, parce que ici ça rapporte que 10 au lieu de 15%, je décide de fermer votre emploi, vous, à 4 000 km d'ici. Vous avez plus de boulot parce que votre ennemi que vous ne connaissez pas a décidé que vous n'étiez pas assez rentable. Et donc l'ennemi, vous vous battez contre qui? Et donc, du coup, dans cette intensité de la compétition mondiale, en réalité, la rivalité vient partout. Ce que les gens voient, ce n'est pas un État qui serre les coudes pour se battre contre le reste du monde. Ce qu'ils voient, c'est que leur commune est en train de se battre contre la commune d'à côté pour que l'usine vienne s'installer ici. Ce qu'ils voient, c'est des régions qui font du démarchage pour attirer des capitaux plutôt chez eux que ici. Ce qu'ils voient, c'est que baissent les impôts là-dessus, font de la concurrence fiscale pour obtenir des choses au détriment des autres. C'est-à-dire qu'ils voient dans leur propre pays des régions se faire la guerre. Et puis finalement, après, ils voient dans leur propre entreprise, parce que le travail est entièrement réorganisé de cette manière-là, en brisant tous les collectifs de travail, en individualisant les carrières, les processus, ils voient aussi des gens qui sont mis en situation de rivalité les uns contre les autres, jusqu'au moment où finalement dans la tête des gens, il n'y a plus forcément la question de savoir comment je vais faire pour être solidaire avec mes potes, pour ensemble pouvoir mener un combat, parce que parfois on se dit on ne voit pas ce qu'on peut faire, et ce qui commence à trotter dans la tête des gens, c'est aussi comment je vais faire pour que ce soit pas moi qui soit dans la prochaine charrette, mais plutôt les autres. C'est-à-dire qu'on instille le virus justement de la rivalité, de la guerre économique à absolument tous les étages. Donc si vous avez la guerre dans le monde, vous apercevez que c'est la guerre aussi chez vous, que l'espace national n'est plus un espace de solidarité, que votre État, votre gouvernement ne peut rien pour vous, et d'ailleurs il vous le dit, il n'arrête pas de vous le répéter, mais nous ne pouvons plus rien pour vous, c'est à vous de vous battre. Ah bon, donc il n'y a plus d'État, il n'y a plus de nation, il n'y a plus que des entreprises en guerre, mais dans l'entreprise, on ne vous dit pas, là, on est les petits gars, on est tous ensemble, on va s'en sortir tous ensemble. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est marche ou crève. Si tu t'en sors pas tout seul, tu vas crever sur le champ de bataille. Donc on vous dit non, il n'y a même plus d'entreprise. Il n'y a même plus d'entreprise. Vous êtes des auto-entrepreneurs, vous êtes des individus qui menez votre vie, vous n'êtes plus des salariés dans une équipe, vous êtes des individus, vous devez vous battre. Si vous ne vous battez pas, vous serez éliminé. Et on n'y peut rien, parce qu'on dit c'est pas de notre faute, c'est le client qui est roi, c'est le marché. Donc il n'y a plus rien. C'est-à-dire que tous ces cercles sociaux, qui étaient des espaces où concrètement et symboliquement, qu'on pouvait percevoir comme des espaces d'humanité, de liens sur lesquels on pouvait s'appuyer, ils s'effondrent les uns sur les autres. Vous voyez que la ronde tourne à l'envers, ils s'effondrent les uns sur les autres, se transforment en espace de guerre. D'incivilité et de rivalité. Alors il reste quoi? Ça s'effondre sur le cocon familial. Il reste quoi comme espace d'humanité? La famille.